Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Salut les marketeurs, je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode du podcast Marketing Mania, je suis rejoint par Grégory Lagrange de Lifestylers.fr. Grégory est un expert du copywriting et vous allez voir qu'on va bien rentrer dans les détails sur ce sujet-là. En particulier, Grégory m'a raconté comment il a commencé dans le marketing en promouvant de la musique électro à Amsterdam. On parlera aussi de comment rentrer dans la tête de votre prospect pour que votre prospect ait l'impression que vous le connaissiez mieux que sa propre mère. Et enfin, vous découvrirez les raisons fascinantes pour lesquelles Grégory envoie encore aujourd'hui une newsletter papier à ses abonnés. Alors sans plus de transition, je vous présente Grégory Lagrange. Salut Greg, bienvenue sur le podcast Marketing Mania.
Salut Stan, merci pour ton invitation.
Donc je t'ai invité aujourd'hui pour parler d'un sujet en particulier qui s'appelle le copywriting. Donc on va rentrer dans les détails ensemble parce que je pense que, comme on en parlait juste avant l'interview, c'est un sujet que pas beaucoup de gens en France connaissent en profondeur et que je pense qu'on est deux personnes à avoir été très profond dans l'étude du sujet, à aller lire les gars qui ont écrit depuis les années 70-80 sur le sujet. Donc on va pouvoir se plonger un peu là-dedans. Mais pour commencer avec toi, je voudrais reparler de comment est-ce que tu es rentré dans ce milieu. Parce que j'ai entendu dire que tu as commencé dans le milieu du marketing en faisant la promotion de la musique électro à Amsterdam. Est-ce que tu serais le marketeur français le plus branché au monde?
Le plus branché, certainement pas. Enfin, peut-être à une époque, j'en sais rien. Voilà, tu me diras, les marketeurs français. Ouais, j'ai jamais fait d'études de comparaison là-dessus, je t'avoue. Le truc, ouais, l'histoire est un petit peu bizarre. Donc en 2004, je suis parti vivre un petit peu à l'arrache, comme pas mal de choix de vie que j'ai fait par ailleurs. Mais bon, bref, je suis parti vivre à Amsterdam comme ça. Et puis de fil en aiguille, bah, j'étais passionné de musique électronique. Je faisais de la production, je composais mes trucs. Et donc, je cherchais à faire un maximum de live, jouer mes morceaux à droite à gauche. Et puis très vite, je me suis fait un petit réseau sur Amsterdam, même si je connaissais pas la langue la moins sexy du monde, qui est le néerlandais. Qui ferait passer l'allemand pour la 7e symphonie de Beethoven, tellement c'est laid leur langue, mais on les aime bien. Et ce qui s'est passé avec le temps, bah, c'est que je me suis retrouvé donc à monter avec ma nana de l'époque, on a monté en fait une boîte qui organisait des concerts, donc qui mélangeait musique électronique et aspect visuel, installation, enfin vraiment pour donner une expérience, quoi. Les gens viennent pas juste voir de la musique électro, qui par définition bouge pas trop parce que t'as soit un DJ, soit un mec qui joue du live, qui fait du live avec ses machines, etc., etc. Et donc forcément, bah après, quand on commence à organiser des soirées, bah le but c'est de ramener du monde. Et donc c'est là où je me suis mis en fait à utiliser Internet, à utiliser toutes les techniques offline en fait de marketing aussi, flyers, enfin tout ce qui était possible pour ramener un maximum de gens dans ces soirées-là. Et puis donc c'est comme ça qu'en fait que j'ai commencé à faire du marketing sans vraiment savoir ce que c'était que du marketing comme on peut le savoir maintenant quand on en fait tous les jours et quand on en fait son métier plus tard. Et puis quasiment dans les mois qui ont suivi aussi, j'ai monté la première émission de radio anglophone avec des gens d'un peu partout dans le monde, mais tous sauf des locaux forcément, sur Amsterdam et toute la région. Et là, ça a été un peu le même défi, faire connaître le truc.
Et du coup, tu utilisais quoi comme technique à l'époque? C'était du référencement beaucoup?
Il y avait un petit peu de tout, il y avait un peu de référencement effectivement, il y avait beaucoup d'opérations marketing à l'ancienne, enfin street marketing hein, forcément, mais en essayant d'être plus créatif que le voisin, quoi. Vraiment faire des petites opérations buzz à droite à gauche ou des happenings dans les rues.
Tu te souviens d'une opération qui avait particulièrement bien fonctionné?
Bah on avait, c'était pas super légal notre truc, mais on avait... C'était en fait, on avait invité des groupes allemands à jouer en fait, des groupes de Berlin, comme bref, des artistes qu'on connaissait. Et en fait, il y avait une soirée ailleurs quelque part à Amsterdam, dans un endroit qui était super super connu, où on avait on avait fait un petit happening imprévu en plein milieu d'un concert. On avait un peu fait sauter le son là-bas pour encore arrivé à balancer notre truc sur scène. Et en fait, on avait mis en fait un des groupes sur scène à jouer quoi, deux morceaux jusqu'à ce qu'ils se fassent chuter. Enfin, c'était assez marrant. Et on avait balancé des flyers un peu partout. Enfin bon, c'était l'époque, j'avais quoi, j'avais 25 piges, on faisait un peu les cons, mais on se marrait bien. Et donc ouais, là c'était, et ça avait fait un buzz monstrueux en fait, parce que c'était une soirée où il y avait vraiment pas mal de couverture médiatique et finalement, ils avaient quasiment pas parlé, même dans les journaux locaux le lendemain, de la soirée en tant que telle, mais finalement de ce que on faisait nous le lendemain. Et on s'est retrouvé à avoir une queue dans la rue devant la salle. Nous on voulait remplir une salle de 500 places. C'était une des premières soirées voilà, où on visait un peu plus que le petit club à 50 personnes. On n'était pas encore sur des salles de 3000 ou 5000 personnes. Mais bon, ouais, notre truc avait fait tellement de bruit qu'il y avait une file d'attente dans la rue sur, je sais pas, sur 300 mètres, quoi. C'était un truc de fou, quoi.
Et au final, la plus grande salle que tu as remplie, c'était combien?
Je sais pas, du 8000, je crois. Un truc comme ça.
Ouais, quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est advenu? Parce que je suis obligé de remarquer que tu n'es pas devenu le nouveau David Guetta. C'est quelque chose qui, au bout d'un moment, t'as lassé, t'es passé à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, David Guetta, il n'y aurait pas eu de risque parce que j'ai trop de respect pour la musique pour écouter ce genre de truc. Désolé.
Ah, je savais que la référence allait toucher mouche.
ouais, non, bah là, c'est plus. Non, mais après 5 ans à Amsterdam, et puis surtout, ça prend une énergie folle d'organiser des soirées. Au bout d'un moment, je me retrouvais à travailler au Paradiso, qui est une grosse salle de concert à Amsterdam où un peu tous les grands groupes sont passés dans les années 60, depuis les années 60. Bon, c'est pas l'équivalent du Bercy ou de Zénith à Paris, parce que c'est un peu plus petit, ça doit faire 1000-2000 personnes. Mais c'est une salle culte, donc je me retrouvais à faire ça, je bossais à la radio, les émissions elles étaient à 7h du matin, donc en gros je bossais de 5 à 8 ou 9 à la radio tous les matins, après je composais, les nuits c'était les soirées, soit à jouer, soit à organiser, soit à aller networker d'une certaine manière, enfin au bout d'un moment j'avais vraiment besoin de faire une pause. Et puis au bout de 5 ans, je me suis lassé d'Amsterdam, envie de tenter un truc nouveau. Je suis parti à l'arrache à Prague, et puis et à Prague, j'ai fait que jouer pour moi. Et puis j'ai arrêté d'organiser des soirées, quoi. Et c'est à partir de là, sur les dernières années, les deux dernières années à Amsterdam, déjà, je m'étais vraiment passionné pour le marketing, mais là, à me former, aller lire un maximum de bouquins, suivre des formations américaines. Et c'est à partir de là, vraiment, que j'ai fait ça sérieusement, sachant que ce que je faisais était vraiment du marketing, en fait, et pas juste ramener du monde à des soirées électro.
Donc aujourd'hui, t'es devenu un consultant principalement, tu décris ça comme ça?
Ouais, je suis un mélange entre effectivement, je vois mon truc comme ayant trois facettes. C'est le côté consultant pour les gros business, des gens qui ont des business autour généralement de la vente de produits d'information, mais qui ont un business déjà avancé, et là je les aide en faisant tout leur marketing.
Quand tu dis avancé, c'est quel volume de vente par an, grosso modo?
C'est des gens qui font au moins on va dire le minimum, ça doit être avant que je bosse avec eux, le minimum ça doit être du 300 000 euros de CA par an, quoi. Donc entre 300 000 et 1 million de CA en gros. Donc ça, bon, des clients comme ça, forcément j'en prends pas beaucoup en même temps, parce que ça c'est là où je passe le plus de temps. Donc ça, c'est mon côté, pour moi c'est le côté consultant. Après je fais beaucoup de coaching que beaucoup de gens appelleraient être consultant aussi, mais là c'est plus aider des gens qui ont des projets qui sont moins avancés, qu'ils soient débutants ou pas, mais qui ont déjà un premier produit ou qui ont déjà une marque ou quelque chose, vraiment un truc à présenter, mais à qui manque la stratégie, le marketing. J'ai pas envie de faire uniquement du gros, entre guillemets, dans le sens où après on se déconnecte un petit peu de la base et on sait plus trop ce qui marche, ce qui marche pas. J'aime bien accompagner des gens qui sont pas non plus déjà arrivés à être des gens super connus, quoi. Donc ça, c'est le côté coaching pour moi, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle. Et puis après il y a le côté formateur avec tout ce que je vais faire sur Lifestylers, où je vais partager les techniques que je teste, que ce soit sur Lifestylers, sur d'autres de mes sites ou avec mes clients, en fait.
Est-ce que tu te souviens de ton premier client en copywriting?
Mon premier client en copywriting, ça devait être à l'époque d'Amsterdam, en sachant pas que je faisais du copywriting, forcément. Il y a beaucoup de choses. Mes premiers clients, globalement, que ce soit on va appeler ça du coaching, marketing ou en copywriting, mais en sachant pas que c'en était, c'est des gens, en fait, que j'ai rencontrés dans des soirées et qui sont venus, me poser des questions ou voir, me demander de l'aide, en fait, pour booster leur soirée à eux. parce qu'ils voyaient bien que nos événements ils marchaient bien, que les techniques elles étaient différentes. Tu me posais les questions, voilà, référencement, street marketing, des techniques que j'utilisais à l'époque, mais forcément, bah, on commençait à utiliser le web aussi déjà, hein, pour ramener du monde. Alors bon, forcément, c'est pas comme aujourd'hui, c'était la bonne vieille époque où MySpace c'était un peu dieu, quoi. C'est des trucs qui sont complètement différents aujourd'hui. Mais ouais, mes premiers clients en marketing, finalement, bah, c'est des gens, des gros promoteurs de soirées qui avaient besoin d'un coup de main, ouais, sur comment designer les flyers, comment communiquer autour de leur soirée, comment communiquer sur leur site web, comment fidéliser, faire ramener les gens d'une soirée sur l'autre. Donc c'était vraiment ça. Les tout débuts, c'est ça.
Donc en fait, ça a toujours été naturel pour toi de transcrire tes compétences vers des clients.
Mais en fait, ouais, tout s'est fait de manière fluide tout le temps. En fait, ouais. Ouais, j'étais coach, consultant, avant de savoir que j'étais coach ou consultant, ou de savoir vraiment ce qu'était un coach ou un consultant. Tout comme je faisais déjà du marketing ou du copywriting avant même de savoir ce que c'était vraiment, quoi. Au-delà du, voilà, le mot marketing, tout le monde sait ce que c'est, mais bon, il y a une différence entre ce que je sais maintenant ou ce que tu sais maintenant du marketing et ce que j'en savais à l'époque. Voilà, enfin, pour moi, c'était juste des techniques pour ramener du monde, quoi. C'était vraiment de l'amateur appliqué, on va dire.
Donc, à l'époque, c'était des gens que tu rencontrais par hasard et à qui tu proposais tes services. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Comment est-ce que tes clients te trouvent?
C'était des gens plutôt qui voyaient les résultats et qui me contactaient, ou alors des gens avec qui on discutait. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais ça, blablabla. Bla, bla, bla. Et de fil en aiguille, des gens ont des besoins. Toi, tu t'es passé par ce chemin-là. Et c'est comme tout, finalement. Voilà, quand on est capable d'aider des gens à obtenir à résoudre leurs problèmes et à leur faire obtenir les mêmes résultats que ce que nous, on a déjà réussi à faire, bah, on est capable de les aider et finalement d'échanger ça contre de l'argent parce que ça leur apporte énormément de valeur.
C'est toujours le cas aujourd'hui ?
Maintenant, globalement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe aussi. Enfin, je fais très très peu de promotion pour trouver mes clients, voire j'en fais même pas. Enfin, la seule promotion que je vais peut-être faire pour trouver des clients en coaching ou consulting, c'est finalement publier du contenu sur Lifestylers. J'ai jamais... Je fréquente aucun des congrès ou événements web qui existent en France ou ailleurs. Je démarche pas de clients, mais en moyenne, enfin, je reçois entre 4 et, en moyenne 4-5 demandes, soit pour du coaching, soit pour du consulting chaque semaine. Donc, j'ai pas besoin, j'avoue. J'ai la chance que le bouche à oreille marche ou que des gens m'aient entendu dans une interview à droite à gauche. Peut-être éventuellement, toi, quelqu'un qui tomberait sur ce podcast-là pourrait me contacter. Tu vois, enfin, globalement, c'est comme ça que mes clients me trouvent. Ils me suivent sur Lifestylers, au bout d'un moment, ils ont besoin de quelqu'un. Ou alors, ils entendent parler de moi, ou quelqu'un qui va me conseiller. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant.
Enfin, quand t'es compétent en termes de copywriting, derrière, tu crèves pas de faim, quoi. C'est ça que j'ai l'impression d'entendre. Tu te poses pas trop la question d'où va venir ton prochain chèque.
Ouais, bah, j'ai cette chance-là. En même temps, copywriting, là, je parle plus du côté consultant. En globalité sur l'ensemble du marketing d'un site, mais même si je faisais uniquement du copywriting, il y a tellement peu de spécialistes en France par rapport à ce qu'il y a comme besoin que t'es sûr de jamais crever la dalle. Et souvent j'en parlais assez régulièrement dans des articles ou dans une newsletter que j'envoie chaque mois aux abonnés d'une offre que j'ai. Finalement, s'il y a une compétence sur laquelle ça vaut vraiment le coup de tout apprendre pour être sûr de jamais galérer à la fin du mois, c'est bien le copywriting. Parce que même si les formats évoluent, même si maintenant il y a moins de pages de vente parce que tout le monde préfère la vidéo ou YouTube ou ceci ou cela, même si les trucs ont plus le même aspect visuel, globalement c'est toujours le texte, les techniques de persuasion, la façon d'accrocher le visiteur, de lui présenter des offres, qui fait que finalement un produit ou un service il va vraiment être vraiment super bien vendre ou pas.
Bah, je peux confirmer, hein. Moi je fais beaucoup de vidéos de vente et là-dessus on agonise sur le script. Hein. C'est le script, c'est du copywriting. Bon après c'est une vidéo, mais le script on va optimiser chaque mot, on va vraiment réfléchir à la structure, on va éditer, on va agoniser sur chaque phrase qu'on peut enlever pour enlever 30 secondes de vidéos qui sont inutiles, etc. Et ça, voilà, ça si ça fonctionne, ça fonctionne et ça derrière t'as du retour sur investissement qui vaut le coup de te faire chier à optimiser quoi.
C'est clair. La plupart du temps, moi, je me rends compte que finalement, on passe plus de temps à faire un argumentaire de vente qu'à faire le produit, quoi.
Ouais.
C'est ce qui peut paraître hallucinant quand on enregistre une formation, même des longues formations qui représentent 30 heures de contenu des fois. Mais finalement, il y a beaucoup plus de travail à passer pour le vendre derrière, clairement.
Ouais, surtout si tu combines toutes les séquences, quoi. Non seulement t'as ta page de vente qui généralement est longue, tu vas avoir des emails de relance, faut que tu réfléchisses aux funnels, aux séquences, etc.
Ah oui, mais sans même parler de tunnel de vente ou de séquence ou d'emailing, hein, mais rien que l'argumentaire de vente en tant que tel, que ce soit un script de vidéo ou une page de vente, ouais, non, clairement, ça demande beaucoup de temps.
Donc, voilà, ça demande beaucoup de temps. Toi, t'as des compétences qui sont assez rares, tu travailles avec des gros clients. Comment est-ce que tu mets en place les deals que t'as avec eux? Est-ce que tu leur donnes un prix fixe? Est-ce que t'es payé à l'heure? Est-ce que tu prends des parts derrière sur les revenus que tu génères? Comment est-ce que tu structures ces deals-là?
La plupart du temps, c'est donc pour les gros clients, donc je me charge de tout le marketing ou pour des grosses pages de vente. Il y a souvent une caution avant que je me mette à bosser, avec un objectif. C'est-à-dire, en gros, finalement, le but, c'est de créer une offre qui soit aussi irrésistible pour la personne et en même temps que j'ai une garantie. C'est-à-dire, par exemple, prenons l'exemple d'un business qui me compte, enfin, de quelqu'un qui a un business qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel aujourd'hui, qui me contacte. Cette personne-là, si je sens qu'il y a un potentiel, que je peux l'aider, etc., si on se fixe l'objectif, par exemple, en un an, d'arriver à 1 million d'euros et donc de doubler, je vais demander une caution, généralement assez élevée, avant de faire quoi que ce soit. Et cette caution, je la rembourse à la fin de l'année. Si j'ai pas réussi à faire atteindre l'objectif à mon client. Donc pour moi, ça me fait une garantie que la personne est sérieuse et que voilà, on va tout faire pour que ça marche. Et en même temps, bah du coup, c'est une opération blanche pour le client, parce que si jamais on n'atteint pas nos objectifs, qui sont toujours assez élevés, bah en gros cette caution là, finalement je la rembourse. Bon, c'est jamais arrivé, mais enfin bon, en tout cas c'est comme ça que le deal se présente. Et après, en fait, je prends un pourcentage sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Et j'ai jamais signé deux fois exactement le même deal, hein. Souvent c'est des discussions et puis on se met d'accord, mais souvent c'est des choses du style avec un pourcentage entre par exemple, si on part de 500 000 qu'on doit arriver à 1 million, bon bah si c'est si on finit entre 500 000 et 700 000, je vais prendre 10% de l'augmentation du chiffre d'affaires. Si c'est le palier au-dessus, je vais prendre 15%, puis le maximum 20 ou 25, ce genre de choses.
Et ton pourcentage dure que sur la première année ou est-ce que sur les années suivantes, tu continues à toucher des revenus résiduels là-dessus?
Ça dépend vraiment des deals.
Ok. J'ai une autre question à te poser qui n'a rien à voir. Ton site s'appelle lifestylers.fr.
Ouais.
Ce qui est un nom qui semble évoquer quelque chose de complètement différent. En l'occurrence, moi, quand j'ai vu le nom du site, ça m'a évoqué quelque chose. Je m'attendais à voir des palmiers, à te voir sur la plage en short avec un mojito, à dire « Vous voulez vivre une vie de rêve venez sur mon site. » Au final, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui t'a incité à prendre ce titre-là et est-ce que c'est juste un hasard auquel t'as pas trop réfléchi?
Le site, j'ai dû me décider un après-midi de février, il y a 2-3 ans, enfin je sais plus quelle année c'était, mais c'était un après-midi de février, il était en ligne 2 heures plus tard, avec ce nom-là. J'aime beaucoup toutes les idées autour du lifestyle parce que ça correspond vraiment à ma personnalité. Je me prends vraiment pas la tête, je bosse d'où je veux, quand je veux, avec les clients que je veux. Enfin, tout ça, c'est des idées qui sont auxquelles je tiens beaucoup. Après, je préfère faire passer ça plus dans ma façon de parler sur mon site, dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'écrire des emailings, dans mes contenus. Je préfère plus que les gens voient ça dans ma personnalité que de l'afficher. Comme font beaucoup de marketeurs, parce que ça me saoule. C'est un truc, voilà, mettre des photos sous des cocotiers ou mettre des photos devant des villas ou des belles piscines ou des belles bagnoles, tout ça pour montrer qu'on marche bien sur le web. Effectivement, ça vend. C'est des trucs qui font vendre, mais ça correspond à tout ce que je vomis. Donc je me sentirais pas, enfin voilà, ça serait vraiment pas moi. Donc le nom du site en tant que tel, enfin pour moi, c'est plus aux gens à qui ça s'adresse. C'est pas même si c'est des stratégies marketing, même si c'est du copywriting, même si finalement je vais pas parler de comment aller vivre sous les cocotiers pour reprendre ton expression, c'est tous les gens qui s'intéressent à ce que je fais comme à ce que font d'autres de mes compères, forcément ils ont ce qu'ils recherchent au-delà des résultats financiers, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre leur vie selon leurs propres règles. Et ça, c'est un des critères numéro un de tout ce que je fais, de tous mes choix, et je conseille à tout le monde de faire pareil. Mais après, ça veut pas dire que je vais en parler 150 ans ou systématiquement, parce que finalement, la plupart des gens qui me suivent, je pense qu'ils sont pré-convaincus là-dessus. Ils ont lu des bouquins, ils ont déjà, je sais pas, ils ont lu La Semaine de 4 heures, qui a bon des mauvais côtés, mais qui en même temps fait pas mal réfléchir, et met une bonne claque la première fois qu'on le lit. Ils ont lu des bouquins dans ce style-là, ils sont déjà convaincus là-dessus. Et finalement, ce qui leur manque, c'est pas ça. Le rêve, ils l'ont déjà finalement. Ce qu'ils veulent, ils l'ont déjà, même si c'est flou pour eux. Ce qui leur manque, c'est les techniques pour y arriver. Et c'est ça qui me plaît le plus de donner, en fait.
Donc toi, tu as vécu à Amsterdam, tu as vécu à Prague. Là, tu es revenu en France ?
Ouais, je suis revenu en France en 2000... Je suis nul avec les années. Enfin, il y a 3-4 ans.
Okay.
Il y a 4 ans. Bon, après, je voyage toujours pas mal.
Tu avais une motivation particulière pour revenir ? C'était du networking ? C'était le mal du pays ? Ou tu avais juste envie de revenir ici pour un moment ?
En fait, j'y ai absolument pas réfléchi. Sinon, je pense que je serais toujours à Prague en train de faire de la musique et de fréquenter de charmantes personnes. Est-ce que c'était le paradis ? Non, c'était un mois d'octobre, pour tout te dire. Ouais, c'est vraiment le podcast perso où je dévoile des trucs dont j'ai jamais dit, jamais parlé. Non, j'ai juste, je sais pas, j'ai eu ma mère au téléphone, c'était son anniversaire le lendemain, et sans réfléchir, je lui ai dit, est-ce que ça te ferait plaisir que je rentre en France pour ton anniversaire ? Pour de bon, quoi. Mais j'y avais pas réfléchi une minute avant, en fait. Et elle m'a dit oui, je pense que j'ai compris que ça lui ferait plaisir que je rentre un peu. Et je suis rentré, en fait. Le lendemain, j'étais rentré, j'avais fait mon sac. J'ai pas réfléchi.
J'ai un peu la même attitude, moi aussi, sur le voyage.
Ouais.
Pour revenir un peu sur le copywriting, qui était quand même mon sujet original, moi, j'en fais beaucoup. On en a parlé un tout petit peu avant l'interview. Moi, je fais beaucoup de copywriting. Une des choses que j'ai remarquées, c'est que évidemment le plus important, ça va être de rentrer dans la tête du prospect. Le plus important, c'est pas les techniques que tu utilises, c'est de savoir de comprendre ton prospect. Mais des choses que j'ai remarquées, c'est que comprendre le prospect, c'est tout un process qui est assez compliqué. Toi, tu fais du consulting, ce qui veut dire que tu dois écrire des pages de vente pour d'autres personnes. Ce qui veut dire que tu dois apprendre à comprendre les prospects de quelqu'un d'autre sur un business qui n'est pas le tien. Est-ce que tu as un process particulier pour rentrer là-dedans ? Est-ce que tu utilises des sondages ? Est-ce que tu vas appeler les gars en face à face ? Qu'est-ce que tu fais pour comprendre un prospect qui n'est pas le tien à l'origine?
Alors, un process pur au sens premier du terme, non, parce que je me lasse rapidement, je fais jamais deux fois les choses exactement pareilles. Mais ouais, effectivement, le plus important, c'est de comprendre son marché, plus que tout. Après, quand tu écris aussi, que ce soit un argumentaire de vente ou des emailings pour un client, faut aussi que tu maîtrises la personnalité de ton client. Donc ça fait deux trucs à étudier. Mais c'est plus facile d'étudier le style de ton client pour l'améliorer, mais avec des techniques de copywriting, mais sans que ça se voit. Enfin, t'as l'impression, de façon à donner l'impression que ça soit le client qui écrit le truc, avec son style, avec sa personnalité, avec ce qui rend sa marque unique et ce qui donne envie aux gens de le suivre, d'aller plus loin, d'acheter, etc. Mais après, le plus gros, effectivement, c'est super bien connaître son marché. Le premier truc, c'est de connaître son marché mieux que sa propre mère.
Et comment est-ce que tu fais ces recherches-là ? Est-ce que t'as des sondages ? Qu'est-ce que tu fais ?
Les process, ça va vraiment être variable selon les marchés. Il y a des thématiques qu'on a la chance de maîtriser mieux que d'autres. Il y a des thématiques qu'on n'y connaît strictement rien. Alors, je vais prendre l'exemple d'une thématique où je connais strictement rien. Le premier truc que je vais faire, je pense, c'est aller passer un temps phénoménal à regarder un petit peu tout ce qui se dit, les questions qui sont posées dans les forums. Parce que globalement, c'est là où on voit plus les questions que se posent les prospects, les clients. Je vais aller regarder les commentaires de blog, je vais aller regarder tout ce que je trouve sur Amazon sur le sujet, voir les avis que laissent les gens. Après, ça m'est arrivé sur certains marchés, je le fais un peu moins maintenant, parce que à force, il y a des trucs qu'on... Plus on est bon en copywriting, plus ça devient facile globalement. Hein. Tu l'as peut-être remarqué, toi qu'on fait beaucoup aussi. Mais ça m'est arrivé de m'inscrire sur des forums et de poser des questions ou de demander des avis aux gens. Après oui, pour certains blogueurs, pour certains entrepreneurs, j'ai mis en place des sondages. Enfin ouais, les stratégies classiques, mais globalement, ouais, enfin passer un temps phénoménal à travailler l'avatar client finalement et à tout savoir quoi. Vraiment avoir une sorte de... C'est du profiling quelque part quoi. C'est de se transformer en agent du FBI et essayer de se mettre dans la tête de tous ces gens-là. Et finalement, le grand principe, tu l'as lu 150 000 fois vu que t'as dévoré plein de bouquins sur le copywriting aussi. Enfin, c'est d'être capable finalement de passer les journées dans les pompes de ses prospects. Et finalement, que ça soit nos prospects ou les prospects de nos clients quand on est consultant, ça revient exactement à la même chose. Passer leur journée, voir le monde à travers leurs yeux à eux, essayer de se dire, ok, qu'est-ce qui les frustre, qu'est-ce qui se pose comme question, qu'est-ce qu'ils font pas, qu'est-ce qu'ils lisent, à quel message ils sont exposés, de quoi ils en ont marre, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment, qu'ils savent pas eux-mêmes. Enfin, c'est toutes ces questions-là, finalement, auxquelles faut réfléchir. C'est plus qu'un process, quoi. C'est prendre énormément de notes, quoi. Énormément de notes, alors soit sur papier, soit dans sa tête, finalement, mais de façon à trouver les leviers, les boutons émotionnels qui les font réagir et le truc qui va vraiment les toucher et pas uniquement faire de la redite et proposer quelque chose qui est un message qui a déjà été vu 50 fois sur cette thématique-là et qui parle plus à personne, en fait.
Moi, ça m'est arrivé de trouver des propositions de vente verbatim dans les réponses au sondage. Donc, je faisais des réponses au sondage et je les étudie très précisément. Et parfois, je trouvais des phrases ou des expressions que verbatim, je copiais-collais sur ma page de vente parce que je me suis dit, ça exprime exactement le sentiment que le lecteur a et que j'aurais jamais pu inventer moi-même. Et c'est des trucs comme ça où dans la recherche, ça change tout. Et je pense que ça fait une grande partie de la différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est moyen.
Ouais, non, mais t'as complètement raison. Les sondages, quand ils sont bien faits, le problème des sondages, c'est qu'il faut savoir bien les faire. En fait, tout est dans la façon de tourner les questions. Pour obtenir, sinon la qualité des réponses vont pas nous donner grand chose. Mais effectivement, un sondage qui est très très bien fait, qui est très bien tourné, c'est le principe, c'est que ce soit les prospects, les visiteurs, les inscrits à la mailing list de nos clients ou à nous, hein, si on les fait pour notre site, bah, qui nous disent tout. Et forcément, faut juste tourner les questions d'une façon à qu'ils disent pas, qu'ils nous fournissent pas comme réponse ce qu'ils pensent eux qui est la bonne réponse. Ou ce qu'ils pensent qu'ils feraient, ce qu'ils devraient faire, mais plutôt ce qu'ils feront dans les faits. Et c'est la difficulté, elle est là. Par exemple, si tu leur demandes combien vous seriez prêt à payer pour une formation qui va vous aider à apprendre le copywriting, par exemple, ils vont te donner un prix, mais ça veut strictement rien dire, parce qu'il y a une différence énorme entre quand tu leur poses la question dans un sondage comme ça, et le moment où tu leur proposes effectivement d'acheter ta formation ou ton bouquin ou ton accompagnement pour les aider à être bons au copywriting et que tu leur proposes de sortir la carte bleue ou PayPal et d'acheter maintenant ou avant ce soir. C'est complètement biaisé, c'est le genre de question. Si elle est tournée comme ça, tu n'auras aucune info fiable.
Alors sur la question des sondages, moi j'ai une règle simple qu'on utilise en interne et tu me diras si tu es d'accord, c'est qu'on fait uniquement des questions ouvertes. C'est-à-dire, je te demande pas quel sujet préfères-tu apprendre, sujet numéro 1, sujet numéro 2, sujet numéro 3, parce que ces résultats quantitatifs, en fait, m'apprennent pas grand-chose. Tu vois, ils m'apprennent des pourcentages. Ça m'apprend pas grand-chose parce que je sais pas le volume du désir. Ce qu'on fait, c'est qu'on a uniquement des questions ouvertes, donc les gens peuvent écrire autant qu'ils veulent, et derrière, on filtre les réponses par le volume de mots qui ont été donnés. Donc, plus quelqu'un écrit, plus on considère que son désir est important. Et si j'ai 50% des gars qui me disent qui veulent un truc A, 50% des gars qui veulent un truc B, je vais regarder le volume de réponses. Et souvent, il y a un des besoins qui est relativement superficiel et un des besoins qui est en fait super profond et où les gens te racontent leur vie et vont rentrer dans les détails et te racontent leurs rêves et leurs espoirs, etc.
Moi, j'aime bien cette technique-là. Ouais. Enfin, moi, je conseille toujours à mes clients de faire des questions ouvertes un maximum aussi. Après, aussi, en complément de ça, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, le principe, c'est toujours de plutôt que de leur demander, c'est de leur faire faire nous prouver les choses. Et ça peut être fait alors soit avec des systèmes de tests ou de quiz, soit avec des systèmes de sondages pour s'inscrire à la mailing list, soit quand on envoie un mailing où il y a plusieurs options et cliquer sur tel ou tel lien, ils font le choix. Et en fait, d'analyser le nombre de clics, d'analyser les choses comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, de tourner le truc de façon à ce qu'ils se rendent pas compte qu'on est en train de les sonder, mais simplement qu'on leur propose le choix entre plusieurs trucs qui peuvent les aider à résoudre leurs problèmes, obtenir de meilleurs résultats. Et finalement, c'est eux qui vont choisir ce qui les intéresse le plus. Et là, du coup, ce qui se passe dans l'esprit de nos prospects, c'est qu'ils sont pas en train de réfléchir. Tiens, si je clique là, il va penser qu'il faut qu'il fasse un produit d'information sur tel truc. Donc non, c'est juste, la personne est intéressée plus par telle catégorie, ou tel thème, ou résoudre tel problème. Enfin, simplement voir du contenu gratuit, de qualité, tout de suite sur tel thème. Et du coup, ça nous indique directement, finalement, ce que les gens veulent le plus. Donc ça, finalement, c'est des techniques qui permettent de faire que les prospects nous montrent vraiment. Parce qu'ils viennent de nous prouver en cliquant plutôt sur le lien B que le lien A et le lien C, que c'est du blé qui vole. Et ça fonctionne mieux que tout. Alors après, c'est comme tout, ça peut être, comment dire, c'est pas exhaustif, quoi. Ça peut être incomplet, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est à mixer avec du sondage, c'est à mixer avec, discuter avec ses meilleurs prospects, ses meilleurs clients, analyser les questions qu'on nous pose régulièrement dans des mailings, dans des sessions de coaching, enfin, tout dépend après comment on bosse et ce qu'on fait, hein. C'est, enfin, voilà, tout ça, c'est un mélange, mais globalement, ça nous permet de savoir énormément de choses.
Donc, ma prochaine question va être extrêmement difficile pour toi, je pense. T'es prêt?
Attends. C'est tendu ton interview.
T'as vu, on tape, hein. Si tu pouvais conseiller un seul livre sur le copywriting, quel serait-il?
Putain, enfoiré. je crois que je te dirais The Boron Letters de Gary Albert.
Putain, on a fait le même choix sur ce côté-là. Effectivement, Boron Letters qui sont en plus disponibles. On mettra le lien dans l'article de l'épisode, donc pour ceux qui ont envie d'aller voir, qui est effectivement les fameuses lettres que Gary Albert avait écrites quand il était en prison à son fils. Qui résume de façon magnifique.
Ça, c'est un bouquin à avoir lu au moins 5-6 fois minimum et pris plein de notes. Après, il y en a plein d'autres. Hein.
Ouais, mais je pense que celui-là, il correspond à tout le monde, même ceux qui ne sont pas des passionnés et qui ne veulent pas creuser si profond.
C'est vrai qu'il se lit comme un roman en même temps, c'est ça qui est génial. Quoi. C'est vraiment pas un livre qui paraît être un gros livre technique sur le copywriting. Là, tu vas passer la moitié des pages à étudier des publicités à longueur de temps, quoi. Donc, ça peut se lire avec différents niveaux de lecture. Et on peut le lire 10 fois, le lire différemment à chaque fois, en retirer des choses. Mais tout ce que fait Gary Albert de manière large. Après, il y a plein d'autres gens. Hein. Il y a David Ogilvy qui fait des super trucs. Il y a John Carlton, il y a Eugène Schwartz, il y a Robert Collier. Enfin, puis tous ceux que j'oublie à cette heure-ci, quoi, tu vois.
Pour revenir sur les Boron Letters, il n'y a pas longtemps, je l'ai conseillé à un très bon ami qui n'est pas particulièrement un copywriter, tu vois, c'est un gars qui s'intéresse au business, mais qui n'a pas de spécialisation copywriting. Et le mec a dévoré le bouquin en une soirée. Il est revenu avec des étoiles dans les yeux. Il m'a dit « Ah, c'est génial, c'est le meilleur bouquin que j'ai lu toute l'année, etc. » C'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup, beaucoup à tous ceux qui nous écoutent, surtout si ils n'ont pas encore... vraiment plongé dans le copywriting et ouais, qui se lit rapidement, etc. On mettra les liens encore une fois.
Ouais, mais t'as raison, pour commencer, c'est un des plus faciles d'accès.
Moi, j'ai commencé avec ça. On me l'avait recommandé au début et c'était, je sais pas si j'aurais plongé aussi profond dans le copywriting si j'avais pas eu les Boron Letters qui m'avaient absorbé. Moi, une fois que j'ai eu ça, bah, c'est bon, j'étais accro, quoi. J'étais me taper tout le Gary Albert derrière. Et là, il y a de quoi faire.
Ouais, non, mais avant de passer à des choses encore plus techniques ou plus difficiles, où il faut vraiment étudier le machin, je pense que c'est un très, très bon livre pour commencer, ouais, carrément.
Donc, en parlant de Gary Albert, c'est un gars qui faisait une newsletter papier pendant des années, qui est extrêmement célèbre. J'ai découvert que toi aussi, en 2015, tu fais une newsletter papier qui s'appelle la Marketing Master School. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as choisi d'envoyer une newsletter papier?
Tout simplement parce que c'est sur ce format-là que j'ai le plus appris, j'ai le plus progressé moi-même, bah, notamment en ayant étudié toutes les newsletters de Gary Albert, mais pas que. Je sais pas, je dois être abonné à... Allez, actuellement, sans compter les vieux trucs que j'ai récupérés, je dois être abonné en ce moment à 5-6 newsletters de marketeurs, copywriters américains. C'est ce que j'ai le plus de plaisir en... Enfin, on passe énormément de temps en tant qu'entrepreneur. Hein. Alors là, on parle pas que de copywriter ou de gens comme nous, ou de consultants, mais voilà, n'importe qui a un business sur le web, forcément, on passe un temps phénoménal devant un écran d'ordinateur. Et moi, c'est pas trop ma conception de la vie de passer 12 heures devant un écran. Voilà, au bout de 5 heures, j'arrête. Enfin, je peux continuer à bosser, mais différemment. Et il y a deux formats que j'adore, c'est le format audio et le format papier. Mais le format papier encore plus. Parce que j'adore lire, j'adore écrire. De toute façon, quand on est copywriter, quand on adore rédiger des mailings, des choses comme ça, forcément, c'est qu'on aime écrire, donc on aime aussi vachement lire. Enfin, je pense que tout est lié, hein, d'une certaine manière. Les chiens font pas des chats. Et globalement, enfin ouais, c'est le format sur lequel je prends le plus de plaisir à apprendre, qui est le plus facile pour moi, je trouve. Enfin, je sais pas, peut-être parce que j'ai une mémoire visuelle, peut-être parce qu'on peut prendre des notes sur le côté, peut-être parce que ça nous repose les yeux après avoir passé du temps sur l'écran, peut-être parce qu'on peut emmener ça partout. comme avec des fichiers audio, on peut écouter ça et se former en... J'allais dire sous la douche, c'est peut-être un peu tendu, quoi, mais en tout cas, en faisant
tu
la
vaisselle. En mettant le son très fort, tu peux, je pense.
Bah ouais, ouais. Mais en faisant la vaisselle ou le ménage, ou en se baladant en voiture, ou en allant faire son jogging. Enfin, ça t'est pas, il est pas né, celui qui me, dernier qui m'a vu, ou le prochain qui m'a vu. D'ailleurs, c'est pareil, faire un jogging, mais ça, c'est autre chose. C'est courir après rien, non. Mais ouais, tu peux faire ça n'importe quand, quoi. Enfin, et finalement, enfin, c'est vraiment la difficulté. C'est vrai que ça a moins de valeur perçue que la formation en vidéo. Après, il y a un moment où tu te dis, ok, est-ce que j'ai envie de monter un business qui rapporte des millions chaque mois et d'avoir une offre à abonnement? Parce que, en l'occurrence, bon, la newsletter de la Marketing Master School, c'est une des choses que j'envoie dans mon offre à abonnement, donc une formation globale sur le marketing. Mais c'est aussi, donc il y a ce support-là qui est principalement là pour enseigner des techniques d'emailing, de copywriting, de persuasion, enfin toutes les choses qui passent mieux au format texte. Et c'est aussi une des raisons. Voilà, c'est quand même pas simple d'expliquer comment écrire des super mailings, des super titres, des super argumentaires de vente en vidéo ou en audio.
Ouais, mais je te parle pas de vidéo ou d'audio, mais tout simplement de choisir le format papier, parce que là, tu me parles du texte. Tu as choisi le format papier versus pourquoi est-ce que tu m'envoies pas un PDF chaque mois ou est-ce que tu avais une stratégie derrière? Parce que l'idée qui m'est venue, et je vais la partager avec toi, c'est que c'était une technique de différenciation. C'était de te dire, bon, au lieu d'avoir une autre formation que tu vas recevoir dans ton email ou sur un site XY, je t'envoie un truc par papier, tu vas le recevoir dans la poste, tu peux l'attendre. Comme quand tu étais gosse et que tu recevais le magazine, le Picsou magazine, et que tu pouvais l'ouvrir et que tu le reçois dans la poste, et c'est un cadeau qui arrive.
Non, mais il y a plein d'idées. Enfin, moi, j'adore le marketing offline. Enfin, c'est une des meilleures techniques que j'ai implémenté. Ça fait partie des choses, si ce n'est la chose pour certains de mes clients dont je me charge du marketing, qui a fait obtenir les meilleurs résultats depuis 6 mois, 1 an. Là, c'est quand je les ai fait passer à ce modèle là aussi. Ça a plein d'avantages. Non seulement t'as ce côté t'as hâte de recevoir le truc, en plus c'est un truc que tu peux collectionner. Il y a des gens qui m'ont demandé, quelques membres de la Marketing Master School, qui m'ont dit, est-ce que tu comptes faire un classeur, toi, envoyer un classeur pour qu'on puisse les garder. Bon, c'est des trucs, j'ai pas encore trop réfléchi, mais pour te dire l'effet que ça peut avoir, toi, les gens, c'est un objet physique, ça a de la valeur. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, donc effectivement, t'as un côté différenciation quand toi, tu proposes ça, mais t'as un côté différenciation qui se fait surtout chez ton client. C'est-à-dire que voilà, on peut acheter 20 formations, 20 bouquins, 20 trucs vidéo, 20 trucs audio. Le truc qui va arriver sur DVD, sur CD ou sur papier, il va forcément avoir une place à part. Ça sera pas juste un autre fichier de planqué derrière ton ordinateur. Une autre raison aussi, c'est que voilà, quand on veut vraiment se former, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, j'enverrai ça sur un PDF. Déjà, ça aurait moins de valeur qu'une belle newsletter sur papier un peu glacé, avec un papier un peu sympa. Mais surtout, t'as pas le même plaisir à consommer. Moi, des PDF, j'en télécharge plein, mais les trois quarts du temps, enfin même plus, je lis les 5 premiers paragraphes. Après, ça me file mal au crâne de lire un truc sur l'ordi, quoi. D'où l'idée d'envoyer ça chez les gens. Et si l'avantage aussi, c'est très bon dans le cas d'un abonnement, en termes de taux de rétention, c'est-à-dire combien de temps les gens vont rester abonnés. C'est le cas d'une offre mensuelle, mais même en one shot, les gens vont pas jeter ton truc, quoi. Si le contenu est qualitatif, il y a de grandes chances que ça soit sur la table de chevet ou sur le bureau avec les 2-3 meilleurs bouquins sous le Brown Letters de Gary Albert et juste au-dessus du Picsou Magazine, toi.
Tu m'as dit que tu avais eu des bons succès en termes de marketing offline dernièrement. À part la newsletter, tu as des exemples que tu peux partager avec moi?
Ça dépend quel niveau. Parce qu'après, c'est des trucs que je fais pour des gros clients, donc moi j'ai toujours des clauses de confidentialité.
Alors, prenons la question d'une autre façon. Donc sur mon site, donc on a le podcast, etc. C'est entièrement online. Tu vois, on a une newsletter, j'écris des articles, etc. Derrière, ce que j'essaye de vendre, c'est des services de remarketing principalement, qui vont coûter grosso modo entre 300 et 1000 euros par mois par client, selon le volume qu'ils font. Donc derrière, il y a quand même du volume, il y a quand même de la marge qui permet de dépenser un peu en termes d'acquisition. Toi, est-ce qu'il y a des idées qui te viennent de stratégies qu'on pourrait implémenter dans ce cas-là offline, qui permettrait de sortir du lot par rapport à mes concurrents?
Si tu es le seul sur ton marché donc qui est spécialisé sur les stratégies d'acquisition via du remarketing, de la pub Facebook, des choses comme ça. Si t'es le seul sur ton marché à envoyer du contenu gratuit par la poste, alors pas forcément sous forme de newsletter papier. Ça peut être newsletter papier, ça peut être une clé USB avec des formations dessus, ça peut être un CD, un DVD. Si t'es le seul à régulièrement envoyer des choses gratuitement à tes meilleurs prospects.
Alors comment est-ce que je qualifie mes meilleurs prospects ?
Les meilleurs prospects, bon, j'ai créé une formation qui doit s'appeler Marketing Invisible, hein, si vous faites une recherche sur Lifestyler, si ça vous intéresse, sur le marketing offline. On mettra le lien en dessous si tu veux. Mais globalement, j'explique toutes ces stratégies-là, mais bon, juste pour donner quelques clés déjà. Le principe, ça va être de proposer des offres. Déjà, sur tes formulaires d'inscription, tu n'es pas obligé de demander uniquement l'adresse mail, mais tu peux aussi demander les coordonnées postales.
Mais est-ce que ça va pas faire plonger mon taux de conversion si je commence à ajouter des champs ?
Alors, tu vas avoir moins de conversion. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, tu vas augmenter énormément ton taux de conversion, surtout ton panier moyen d'achat ou de vente, enfin ça dépend de quel côté tu le vois, par visiteur. Et si tu arrives à vendre des prestats à 800, 1000 euros par mois comme des petits pains ou 10 fois plus facilement, qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir 50 inscrits au lieu d'en avoir 500? Après, c'est toi qui vois, mais enfin tout le monde me prend un petit peu pour un alien sur ma façon de présenter mon contenu, de présenter mes vidéos, de pas chercher à avoir énormément d'inscrits à ma mailing list, mais plutôt viser la qualité et pas hésiter à virer beaucoup de monde. Mais au bout du compte, voilà, quand on s'adresse uniquement aux très bonnes personnes, faut savoir ce qu'on veut. Ça sert à rien de chercher à avoir plein d'inscrits si finalement personne n'achète derrière. Des fois, vaut mieux leur demander de baisser tes conversions, mais mieux qualifier, en savoir plus, de façon à leur proposer quelque chose qu'ils vont vraiment vouloir derrière. Dès les premiers mailings, dès les premiers contenus gratuits que tu leur envoies du sur-mesure. Si tu fais ça, forcément, tu vas avoir des meilleurs résultats à terme. Même si tu prends en compte le fait que tu vas baisser en transformation, ce que tu demandes effectivement aux gens de remplir deux, trois trucs en plus. Donc ça, c'est pour la partie formulaire. Après, rien ne t'empêche de proposer des offres d'appel juste simplement avec le seul double objectif. Le premier, c'est de transformer tes visiteurs en clients. Et le second, c'est surtout de récupérer l'adresse postale. Si tu sais que tu veux vendre plutôt que de vendre des formations, par exemple, ou surtout, tu veux vendre des prestations de services dans le remarketing, qu'est-ce qui t'empêche de vendre un workshop, une petite formation à 7 euros ou 27 euros, vraiment produit d'appel qui leur apporte beaucoup de valeur, qui leur explique comment ça marche, qui les bluffe sur les résultats qu'on peut attendre à obtenir avec ces techniques-là, et qui leur donne envie d'en avoir plus. Et finalement, le plus, c'est toi qui peux leur donner, parce qu'eux, ils ont peut-être pas envie, ni le temps, ni les compétences pour le faire. Mais finalement, toi, tu vends ton service comme ça.
Donc, et si j'avais fait ce produit d'appel-là, et que j'avais récupéré, disons, quelques centaines d'adresses postales, à quelle fréquence est-ce que tu me conseillerais de contacter ces gens par la poste ?
Plus ça va être fréquent, meilleurs seront tes résultats, forcément. Après, il y a une grosse différence entre faire, par exemple, ce que je fais sur la Marketing Master School, qui est un produit payant, et cette stratégie que je te conseille et que j'ai fait appliquer à des clients, que je n'exclus pas de le faire si j'ai le temps sur Lifestylers aussi, qui est finalement d'envoyer du gratuit. Si on prend l'exemple d'une newsletter, toi, ça peut être une newsletter de 12 pages, où finalement, tu vas avoir 8 pages qui vont être du contenu gratuit super qualitatif, et 4 pages qui est un argumentaire de vente. Ouais. Tout ça, c'est gratos. Après, si t'en envoies un tous les mois, forcément, plus tu vas revenir souvent dans la boîte aux lettres des gens, plus tu seras présent dans leur tête. Après, c'est juste une question de capacité de production. Vaut mieux envoyer un truc béton tous les 3 mois, plutôt que de se dire j'envoie un truc tous les mois, et au bout du compte, 2 mois sur 3, d'envoyer un peu de la merde, faites à la va-vite, hein, si vous me passez l'expression. Quoi.
Donc, tu dois me pardonner, j'ai pas foutu les pieds dans une poste depuis 6 ans. Ça coûterait combien d'envoyer ce type de lettre pour me donner une idée ? Si je fais un peu de volume, disons, j'envoie quelques centaines de lettres à la fois, ça coûte combien en tout le coût de ma campagne ?
Pas tant que ça, finalement. Moi, c'est pareil, hein, la poste, j'y suis retourné pour savoir combien ça coûtait, hein, parce que forcément, j'y allais plus non plus. Par groupe de 100, on va dire, tant que je te dise pas de bêtises, t'as les frais d'impression, mais maintenant, c'est quasiment rien. Hein. Si tu fais du 8, 10, 12 pages, ça va te coûter quoi ? Allez, peut-être... Tout dépend c'est pareil, si tu fais une couverture couleur ou pas, la qualité du papier, mais allez, grand max, tu vas en avoir pour, je pense, un billet de 50 ou 60 euros pour imprimer 100 newsletters. Et après, bah, de les envoyer, ouais, bah, à peu près deux, même pas 2 euros par newsletter.
Ouais, donc pour mes sur newsletter, ouais, c'est ça, c'est 250 euros, quoi.
Ouais, pour en envoyer 100, t'en as pour 200 euros. 200, 250. Enfin, tout dépend, pareil, de la qualité de ton papier, la vitesse d'envoi. Si t'envoies en prioritaire, toi, tu vas pas envoyer des chronopostes, quoi. Parce que là, le truc, il te coûte 7 ou 8 euros, enfin, je sais pas. Mais si t'envoies ça dans une enveloppe craft, de toute façon, la meilleure technique, c'est de faire comme pour les mailings, c'est que t'as l'impression que c'est un ami qui t'envoie ça. Moi, j'envoie mes newsletters papier, bon, les gens les attendent en même temps. C'est pas du truc qui, ce que j'envoie, moi, en tout cas, sur LifeTalers, c'est pas des trucs surprises. Enfin, en tout cas, pour le moment. Mais le fait que ça soit, tu sais, dans une enveloppe craft, là, les grandes enveloppes A4, beige, marron, là, je sais pas trop quelle couleur ça a, ce truc-là. Voilà, comme on met simplement des grands documents, l'adresse, tu fais écrire ça à la main par quelqu'un que tu connais, tu mets l'adresse d'expéditeur au dos, et bim, t'as un meilleur taux d'ouverture. Enfin, voilà, personne va jeter ça à la poubelle. Alors que si tu fais un papier bien chiadé, bien corporate, bah, ça peut être pris pour de la pub et puis filer à la poubelle avec le truc de la banque qui fait une relance pour vendre sa nouvelle version de son assurance.
Donc dans la pratique, toi, tu les mets comment, les newsletters dans les enveloppes? Est-ce que c'est fait à la main?
Ouais. En fait, moi, je donne un petit billet à un pote. Enfin, ça dépend des mois en fonction des disponibilités. Je connais quelqu'un qui est étudiant, là, pas très loin de chez moi, et qui est bien content de prendre le fichier. Moi, je vais juste imprimer les newsletters, je vais déposer la clé USB le matin chez l'imprimeur, je repasse le soir, je récupère toutes mes newsletters, je fais imprimer le fichier avec toutes les adresses actives des membres de la Marketing Master School. Je donne un petit billet à cette personne-là qui est contente de mettre une newsletter par enveloppe, de mettre l'adresse, et puis d'aller poster ça, et puis voilà. Et puis sinon, bah, j'ai un pote aussi qui est... enfin bref, en gros, voilà, des gens qu'on connaît et qui sont bien contents de faire ça contre un petit billet... ça nous fait gagner du temps.
Ouais, comme quoi, il y a besoin d'un système compliqué pour commencer, quoi. C'est là où je voulais en venir.
Bah ouais, ouais, enfin, vraiment, moi, au début, tant que, voilà, si un jour vous avez 1000, 2000, 3000 abonnés, ça, c'est autre chose. Bon, La Poste fait des groupes, enfin, fait des tarifs professionnels, machin, des cartes pro, des trucs. Ils peuvent même faire imprimer et envoyer pour nous, hein. Après, quand on en vend 100, 200, 300, 500 par mois, des choses comme ça, bon. Honnêtement, vaut mieux. C'est aussi vite fait d'aller à l'imprimeur, de récupérer le truc, et puis le seul truc chiant, c'est de mettre dans l'enveloppe et de noter les adresses postales. C'est juste ça. Donc bah voilà, sous-traiter ça coûte 50 euros, et puis ça nous fait économiser un pas mal de temps, quoi.
Ok. Alors, pour terminer sur cette interview, je voudrais te poser trois questions rapides. Tu peux y répondre lentement si tu veux. Question numéro 1, quel est un livre que tu recommandes souvent en dehors du copywriting?
Bah, c'est un petit rapport quand même, On Writing de Stephen King.
Ah oui.
Que je trouve absolument excellent.
Donc tu peux développer un tout petit peu pourquoi est-ce que tu recommandes ce livre en particulier?
Enfin, c'est un auteur que moi j'avais pas lu depuis que j'étais branleur, tu vois, vers 13, 14 ans, 15 ans, j'aimais bien lire ces bouquins-là, quoi. Mais je vais pas faire de spoiling, hein, je vais pas dévoiler ce qu'il y a dedans, mais pour quiconque aime rentrer dans l'esprit d'un créatif, d'une part, pour quiconque aime écrire, pour quiconque a besoin de mettre des idées un petit peu en forme dans des projets plus larges, sans parler des gens qui aimeraient écrire des romans ou des trucs comme ça. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, d'ailleurs. Un petit projet sur la life list à barrer, c'est d'écrire un roman un jour, je pense. Mais ouais, non, il y a tellement de choses. Mais même au-delà de l'écriture, des stratégies d'organisation, des stratégies de persuasion, il y a tout dans ce bouquin. Je trouve ça, c'est un de mes bouquins favoris. Après, la question, soit c'est le genre de question, tu me la poses une journée, le lendemain, je te dirai autre chose, mais voilà ma réponse d'aujourd'hui.
Bah. C'est une bonne réponse, hein. C'est un bouquin que moi je recommande aussi, qui m'a énormément marqué. Passons à ma deuxième question. Si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Sois encore plus toi-même. Soyez vous-même quand vous faites des trucs sur le web. J'ai jamais eu autant de résultats que quand je... Enfin, voilà, c'est être soi-même à 300%. Notre personnalité, de toute façon, voilà, quand on cache rien, quand on est soi-même à 100 000%, les gens qui doivent accrocher, ils accrochent. Et c'est pareil quand on monte sur scène, qu'on fait de la musique, c'est pareil quand on fait du marketing, c'est pareil quand on écrit un article, quand on tourne une vidéo. Vraiment pas chercher à être quelqu'un d'autre, pas chercher à plaire à tout le monde. Je pense que c'est plus que tout, ouais, c'est le truc qui m'aidera le plus, je crois.
Et dernièrement, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit?
Quand j'ai tendance à chercher trop le perfectionniste, il y a un morceau d'un groupe qui est connu qui s'appelle Radiohead qui me revient. Le morceau s'appelle Optimistique. Et il y a une partie qui m'a toujours marqué dans ce morceau-là, c'est « The best you can is good enough ». On va traduire pour les non-anglophones. Enfin, voilà, c'est le mieux que tu puisses faire, ça suffit finalement. Enfin, ça sert à rien de, voilà, juste de donner le meilleur et pas de chercher à en faire plus que ça. Pas se prendre la tête après, à partir de là. Juste faire le... Sinon, il y a une citation, enfin, c'est pas une citation, c'est une devise. Je suis plus ou moins de Nantes à l'origine, c'est la devise du FC Nantes, en fait, que je trouve vraiment chouette. Attends, c'est quoi le truc exactement? Celui qui renonce à être meilleur cesse déjà d'être bon. Et ça, ça me parle pas mal.
Écoute, Greg, on en arrive à la fin de l'interview. Je te remercie, j'ai énormément apprécié cette conversation. Où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ton travail?
Sur mon site, tout simplement, lifestylers.fr. C'est là où je partage des techniques, des vidéos, sur toutes les techniques marketing que je teste, soit pour moi, soit pour mes clients, mes meilleures techniques d'emailing, de copywriting pour augmenter ses inscriptions à sa newsletter, vendre ses produits, augmenter son trafic, etc. etc. C'est un petit peu le laboratoire.
Et bien sûr, pour les auditeurs, vous retrouverez le lien qui sera sous le player dans cet article. Greg, je te souhaite une bonne journée.
Merci toi aussi, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Et puis
à la prochaine.
À la prochaine, ciao.
J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous voulez aller plus loin sur la question du copywriting et des conversions, j'ai préparé pour vous un guide complet des tests AB pour apprendre comment optimiser votre site et comment découvrir les points faibles à améliorer. Vous allez pouvoir le télécharger soit en cliquant sur le lien dans cet article, soit en vous rendant sur marketingmania.fr et en cliquant sur le guide des tests AB. Quant à moi, je vous retrouverai bien sûr dans le prochain épisode pour parler de comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs.